Kid.
Monsieur, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode des Antipodes de la lutte. Pat Laprade, Jason Cavallaro, K.R. Kevin Raphaël.
Let's go!
Tu parles devant ton micro quand tu veux. Tu, ben peux, là, tu peux le tasser même
oui,
un petit peu.
Sont-tu capable d'acheter des bons bras de micro? Bon. Ben moi, mon bras de micro de sans restriction, il fonctionne bien.
Ben mais lui aussi, il fonctionne bien. Faut juste le mettre...
C'est pas un bon bras de micro.
Faut juste le mettre devant, là.
Ils m'ont donné une carte, guys.
Hey, oui, on a des cartes d'accès.
Oh, wow, wow, ils sont pas encore activés. Je vais le croire quand, la semaine prochaine, je vais arriver au building, je vais passer ma carte. Je dis d'avance, groupe. Si la carte marche pas, je retourne chez nous. Je vous jure. Si elle marche pas, il n'y a pas de podcast la semaine prochaine. Si je mets ma carte, puis la carte, je retourne chez nous, tout le monde est prévenu.
OK. Parce que, pour ceux qui le savent peut-être pas, là, ça va faire 4 ans mm-hmm. qu'on a commencé le podcast. Mm-hmm. Et puis, ça fait 4 ans qu'on cogne dans la fenêtre
c'est
pour rentrer.
Hiver comme été.
Comme deux itinérants qui quittent pour avoir un burger. Puis, c'est pas comme s'il n'y avait pas des itinérants qu'on sortait ici.
Puis, c'est pas comme si on n'était pas un des podcasts les plus écoutés de Cube.
Non.
Partenaire au pas de carte. Richard Martineau, il a sa carte, lui.
Ouais, mais Richard Martineau, à sa défense, il est là chaque jour.
Ouais, puis on est un des podcasts les plus écoutés. Put some respect on my name. Donne-moi une goddamn carte. Quoi? Si la semaine prochaine ça marche pas, je retourne chez nous.
En tout cas, écoute, tout est dans les mains de Étienne Roy et Jean-Nicolas, qui sont nos patrons ici. Et puis Jean-Nicolas McMahon, oui, je cherchais. En fait,
je pense plus qu'on va l'appeler comme ça.
Jean-Nicolas Lévesque.
Non, mais je pensais que t'avais fait exprès pour l'appeler de même. C'était comme ah.
Non, Jean-Nicolas Lévesque.
Oui.
Jean-Nicolas Lévesque.
Oui.
Bref, Keybook, notre Patreon, abonnez-vous. Entrevue avec Arda O'Call qu'on a eu la semaine dernière. Ouais. Et là, ce samedi...
Là, on est loadé. Là,
c'est loadé parce que ce samedi, c'est le PLE Elimination Chamber. Ouais. Donc, c'est à 5h du matin. Tout de suite après, on fait le Patreon.
Ouais, fait que vous devriez l'avoir dans la matinée.
Vous allez l'avoir dans la matinée. On a une autre entrevue qui s'en vient très bientôt également. On va également avoir un retour dans le passé. Breaking Point 2009. Question de célébrer le 1 an du dernier pay-per-view à Montréal. On vous donne celui qu'il y avait eu avant, en 2009. Il y a bientôt 15 ans. En fait, ça va faire 15 ans au mois de septembre. Et puis, ben là, le mois de mars va commencer. On va avoir plein de nouvelles affaires pour vous également. On va avoir un pay-per-view d'AEW. Puis, hey, je regarde ça, le Mania s'en vient.
Dans Philly, cette semaine.
Philly, là. J'ai déjà des idées de jersey. Parce qu'on va avoir chacun nos jerseys pour le samedi puis le dimanche.
Ouais, mais j'aime mieux arriver là-bas puis le vivre.
Oui, moi aussi.
J'essaie de voir. Il n'y a pas de Québec que je connais. Il n'y a pas de Québécois qui jouent dans Philadelphie.
Ben, c'est pas grave, l'année passée, il n'y avait pas de Québécois.
Mais non, mais je sais, mais j'aime ça quand il y a des Québec que je connais.
Je comprends.
Dans les villes.
Je comprends. Mais tu pourrais aller chercher un throwback de Simon Gagné? Ou pas? Un throwback de Philippe Aumont?
Non, Yann Laperrière, je le porterais.
Bon, Yann Laperrière, et voilà. Non. L'happy. Excellent. Hey, je veux te féliciter. Tu as lancé aujourd'hui ton site web sans restriction.
Oui, c'est bien. C'est
félicitations.
Bien.
Félicitations.
Merci de faire partie de cette aventure-là aussi.
Ben, avec plaisir, je vais écrire sur le hockey féminin. Évidemment, si Fred était là, il y aurait eu des applaudissements de mini-potes.
Mais là, c'est Jason.
Fait qu'on va lui donner une chance.
Ça fait 2 semaines qu'il est là.
Man, fuck pas te la prendre, OK?
Yes! Yes, Jason!
Yes, Jason! Fais-la jouer, Brinceau, j'ai bien compris.
Man, fuck quoi te la prendre.
Wow! Jason est over, man. Jason est plus over que Jimmy Uso.
Fred, je t'en ai. Fred, reviens, s'il te plaît.
On salue Fred. Fred, il va sûrement écouter l'épisode, donc on salue Fred.
Ouais. Donc, oui, c'est ça. Site web où tu vas avoir des chroniqueurs qui vont parler de sport et puis, qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre?
Moi, je vais écrire des trucs.
Tu vas écrire des trucs.
Alors, tous les épisodes vont être disponibles sur le site internet. Donc, ça nous donne un endroit. Parce que souvent, tu sais, on dit, disponible sur Apple Podcasts, Spotify, YouTube, si, ça. Bon, là, tout est à une place. Puis on devrait avoir des événements sportifs streamés là-dessus.
Okay.
Dans les prochaines semaines. Donc, on est là-dessus, mais on travaille fort.
TVA Sport Cube, RS Stitchers, Google Podcast.
Oh
Apple
my
Podcast,
God!
C'est nous, 5 Star, Frog Splash. TVA Sport Cube, RS Stitchers.
Wow! What a throwback!
throwback.
Une fois c'était assez, là, une fois c'était assez.
C'est un gros throwback. C'est un throwback.
Ben, James, il écoute le, il écoute le podcast depuis, je pense qu'il s'est amusé. Cette semaine, il est arrivé prêt. Il est arrivé prêt sans restriction de luxe. Andy Maillé-Pressoir, Chef Oli et notre Emilio.
Ouais.
Notre Emilio ici.
On a mis le teaser hier en ligne, puis Emilio dit, on a dit tous les trucs qu'il fallait qu'on dise sur le podcast pour se faire cancel. So, le podcast est wild demain, ça va être en ligne. Puis bon, on a eu notre podcast football, comme qu'on va avoir à chaque semaine. Et on a un podcast football qui s'en, on enregistre le 10 mars, donc je sais pas quand ça va sortir, mais il y a déjà beaucoup de chicanes entre moi et les frères Harry Lehmann, entre les frères Harry Lehmann et moi, parce qu'on va faire le all-time, l'alignement de tous les temps du RECQ universitaire.
Du RSEQ.
RSEQ, football universitaire.
Oh.
All-time.
Oh, là, tu vois, moi... all-time, il y a des noms, évidemment, qui vont me dire quelque chose, là.
Mais ça va brasser.
Mais all-time, vous allez remonter, je veux dire, à quelle année, mettons?
All-time.
Ben oui, mais...
Ben, ah, les meilleurs de tous les temps.
Universitaire.
Universitaire.
Québécois.
Québécois.
OK.
Ouais.
OK.
Ouais. Juste te dire, on s'est pogné par message texte sur le kicker. Fait que ça va être un bon podcast.
Oh.
Ça va être un bon podcast.
OK. OK. C'était intéressant.
Continue à nous suivre sur les réseaux sociaux pour avoir plus d'informations.
J'ai une anecdote pour toi.
Vas-y.
Je suis à Trois-Rivières la semaine passée. Mm-hmm. Et puis, il y a Lucien Deblois. On en a parlé tantôt parce que je l'ai salué.
Tu me l'as déjà raconté.
Non, mais je t'ai pas raconté l'anecdote. Oh. Je l'ai gardé pour les antipodes.
Oh, oh,
oh. Donc, Lucien Deblois, ancien joueur des Nordiques, du Canadien, gagné la Coupe Stanley en 86. Et il a joué avec les Rangers aussi. Et puis, je m'en vais saluer les gens que je connais, les joueurs que je connais après la partie. C'est une partie d'anciens Canadiens, anciens Nordiques. Je suis animateur sur le banc là, pour le match. Puis, je serre des mains. Bon, puis à un moment donné, je serre la main à Lucien Lebois qui était venu à mon lancement de Butch Bouchard. Puis tout. Je dis « Salut, Lucien, à la prochaine. » Ah, il dit « Faut que je te dise, là, il dit « La lutte, là, j'aime bien ça. » C'est un monsieur, là, une soixantaine d'années, à peu près, Lucien Deblois, début soixantaine, à peu près. Fait qu'il dit, j'aime bien ça, la lutte. Il dit, dans le temps, au Madison Square Garden, il dit, il nous avait fait faire, à un moment donné, un match de basketball de célébrité. Il dit, j'avais joué avec Hillbilly Jim. Il se rappelait avoir joué avec Hillbilly Jim. Parce que la WWF était très présente au Madison Square Garden.
C'est vraiment drôle, ça.
Et puis, il est en train de se changer en me parlant, tu sais, puis il me raconte tout ça. Puis il me dit, en tout cas, il dit, tu fais du bon travail à télé, là, j'aime bien ça. Et là, t'as Stephen Finn à côté qui travaille avec nous à TVA Sport. Fenner qui dit, il regarde Lucien, il dit, ouais, mais il dit, lui, tu l'aimes, mais son partner, tu l'aimes un peu moins, hein. Et là, il dit, non, il dit, je les aime les deux, ils ont une bonne chimie ensemble, c'est le fun de les écouter. Mais genre, toi, Lucien, merci beaucoup, c'est bien apprécié. Puis là, je viens pour partir. Il se lève, il est rendu quasiment juste en bobette parce qu'il continue à changer. Puis il me dit, oh, puis tes livres aussi, là. En tout cas, il dit, je te suis. J'ai comme fait, c'était comme surréel.
Bat à l'air.
Lucien, non, pas là. Mais c'est Lucien Deblois. Tu sais, je l'ai vu gagner la Coupe Stanley en 86, j'étais à la parade. Puis là, c'est lui qui, qui me dit, hey, je te suis. J'ai trouvé ça drôle. Et cool. L'autre affaire, sur le banc des Nordiques, parce qu'il y avait pas assez d'anciens Nordiques. Mm-hmm. Fait qu'ils ont amené quelques anciens joueurs, dont Mathieu Dandonneau, qui lui a porté son chandail des
Dandy.
Red Wings. Ouais.
OK, ouais, Dandy.
Et puis, Mathieu, il est sur le banc, puis à un moment donné, je suis en arrière pour, tu sais, me préparer à faire une entrevue. Hey, Pat, il dit, faut qu'on se parle tantôt, là. J'ai écouté SmackDown, là, j'ai des questions. Il dit, le Rock, là, qu'est-ce qui se passe?
J'ai des questions.
Il est sur le banc en train d'attendre pour embarquer sa glace. Ce qui m'amène à te parler des questions, parce que lui, il avait des questions, mais j'ai eu deux questions par DM que je voulais débuter l'émission avec, parce qu'il y en a une qui est... Ben, les deux sont pertinentes, mais il y en a une qui a encore plus d'actualité. Il y en a une qui demande, une personne qui demande, est-ce que tu serais capable de nous expliquer pourquoi la WWE n'a jamais et n'est jamais en concurrence pour des prix comme les Emmy Awards?
Parce qu'ils sont pas respectés.
Parce que c'est ça, hein?
C'est vraiment parce qu'ils sont pas respectés. Parce qu'ils devraient... Ben, attends. Ils sont pas respectés, puis la qualité de acting, c'est pas ça partout non plus.
Ben,
là.
C'est ça. Les Emmy, c'est beaucoup... Mais il y a plein d'autres catégories.
Exact.
Pour les travailleurs en arrière-scène, pour la production, pour des trucs comme ça.
Ils pourraient être nominés pour la production, mais après ça... Ça rentre dans quelle catégorie? Ça rentre dans la catégorie de sport ou ça rentre dans la catégorie de série dramatique?
Je pense que c'est plus facile de les mettre de côté et pas se poser de questions.
On en parle pas, on pose pas de questions, mais c'est une question que moi, je me suis posée pendant très longtemps aussi. Mais c'est juste, ils sont pas respectés. C'est comme nous, on n'est pas respectés, mais on devrait, tu sais, je veux pas être plate, là, puis je vais top mon shit, là.
Je sais pas où tu t'en vas, mais je te laisse aller.
Mais il y a quelques prix qu'on aurait dû être nominés pour qu'on n'a pas été nominés pour. Là. Je dis ça de même.
Je suis pas en désaccord avec
toi. On est là 52 semaines par année, chaque semaine.
Pandémie, pas pandémie.
Estime, on est là. Le show, il y a aucun show à la télé au Québec qui est comparable côté production que qu'est-ce qu'on donne à TVA Sport avec la lutte. Pas parce que c'est nous qui le fait, parce que la WWE a une production qui est incomparable à ce qu'on voit ici au Québec, et puis on l'est pas. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas respecté. Mais à la fin de la journée, who gives a shit? Not me.
Y a une deuxième question. Il dit, j'ai une question pour vous par rapport à la fameuse histoire de Cody et toute la saga, j'arrive pas à comprendre. Si nous retournons il y a un mois environ, le plan était clairement que Punk affronterait Seth. Quel était le plan pour Rock et Cody? Car avec un Punk blessé, ou les deux, bon, mais là, il parle de différents scénarios, tout dépendamment qui était blessé, pas blessé. Bon, et c'est un peu ça aussi les questions de Mathieu Dandonneau avait. Et puis, j'en ai eu, là, on en a entendu parler aussi cette semaine de tout ce qui a pu se passer dans l'histoire de Cody. Fait, voici ce que je peux vous dire là, d'après tout ce qui est sorti puis d'après ce que je sais moi aussi. Le samedi du Royal Rumble, Cody Rhodes savait qu'il gagnait le Rumble, mais qu'il n'affrontait pas Roman à WrestleMania. C'était déjà décidé à ce moment-là, parce que le Rock avait eu son entente lors de son retour là au sein du conseil d'administration. Il avait eu son entente, c'est le 3 janvier, que lui il a demandé de travailler avec Roman. Très peu de personnes le savaient. Cody l'a su à la dernière minute. Il l'a pas su, ça faisait pas déjà 3 semaines que Cody était au courant. Maintenant, ce qu'il aurait fait, au moment qu'ils ont dit ça à Cody, ils ne savent pas vraiment ce qu'ils vont faire avec Cody. Ce qui a été décidé, c'est que Cody, finalement, il aurait fait un angle de blessure. Donc, à Elimination Chamber, il aurait blessé Cody Rhodes, et Cody Rhodes aurait été blessé jusqu'après WrestleMania. Ce qui aurait expliqué pourquoi Cody n'aurait pas été à Mania cette année. Ce qui aurait permis de faire Punk contre Seth et Roman contre Rock. Et Cody contre Roman serait arrivé plus tard. C'est quand même ça qu'il aurait fait.
Mais c'est une très mauvaise idée.
Parce que le Rock a demandé de travailler avec Roman.
OK, attends, avant que tu continues. Deux choses. C'est une très mauvaise idée.
Et là, ce que je vous dis là, c'est pas... En tout cas, croyez-moi pas, mais ce que je vous dis là, c'est la réalité.
Je dis pas, je te crois pas.
Je sais. Je parle pas de toi.
C'est une très mauvaise idée. Très mauvaise idée. Ça aurait été un œil au beurre noir sur sur Triple H et toute sa créativité depuis le début, depuis les 2 ans. Je pense qu'il s'est fait 2 ans, là. En fait, c'est son deuxième WrestleMania. Depuis ses 2 WrestleMania.
Ouais, mais en même temps, il y a des décisions l'année passée qui
okay,
a pas
Vince
pris.
Était là. Okay,
la décision de ne pas faire gagner Cody l'an passé, c'est Vince à 3 semaines d'avis.
Mais c'est la décision, c'est une bonne décision. Si on se fie à qu'est-ce que Cody était il y a 1 an, puis qu'est-ce qu'il est aujourd'hui. Maintenant, les gens qui sont fâchés contre The Rock, là. Admettons que The Rock décide de revenir faire un match. Si c'est pas Roman, c'est contre qui?
Ben non, mais je sais.
Mais pourquoi les gens sont fâchés contre The Rock? Si c'est pas contre Roman, c'est contre qui?
Mais je pense qu'ils sont pas fâchés contre The Rock.
Non, il y a beaucoup de gens qui avaient la The Rock d'avoir pris la décision de vouloir revenir puis de vouloir faire un move. Ouais. Quand, hey, arrête là.
Ouais. Non, mais ça t'as mais parfaitement.
Moi, ces gens-là, je leur dis, tu voulais qu'ils se battent contre qui?
Non, contre Chad Gable. Absolument, c'est sûr qu'il revient contre Roman.
Contre Solo? Mais non, c'est contre Roman puis y a pas d'autre match. Fini. Ok, je te laisse continuer.
Pas trop. Bref, voici, c'était ça la situation avec Cody. Donc, Cody n'aurait pas été à Mania et c'est Rock Roman et Seth Punk. Maintenant, avec la blessure de Punk, ben c'est là qu'ils ont ramené Cody dans le mix. Et là, c'était Cody contre Seth jusqu'à ce qu'il y ait un backlash de la part de la foule. Et là, la foule a fait que The Rock, à sa décharge, il a dit « Ok, mais d'abord... » Là, ça marche pas, là. Laissez ma place à Cody. Laissez ma place à Cody, c'est ça que le monde veut. Et là, il a dit, ben non, on peut pas. On va essayer de travailler autour. Et là, c'est là qu'ils sont arrivés avec l'idée de faire un match par équipe. Parce que c'est ça, là. Pour ceux qui doutent encore, là, WrestleMania Night 1, c'est Rock et Roman contre Cody et Seth. J'ai eu plein de monde qui m'ont dit, t'es fou, c'est pas ça. Mais c'est ça qui va arriver. Et le lendemain, c'est Seth contre possiblement Drew, mais minimalement le gagnant du Elimination Chamber et Cody contre Roman. Donc, c'est ça le plan pour l'instant. Et ça peut changer. Ça peut toujours changer. Tu sais, des fois, ça me fait rire. Là. Je lis des fans, là. Ah, là, Meltzer ou un autre a annoncé quelque chose, puis c'est pas arrivé. Ben oui, mais au moment où il l'annonce, c'est ça la réalité. Maintenant, on est dans une business qui change énormément. Et je vous l'ai dit l'an passé, le Cody gagnait contre Roman à 3 semaines de Mania. Et là, c'est là qu'ils ont changé d'idée.
Mais
ils changent d'idée
mais
souvent.
C'était une mauvaise idée à la base de ne pas faire Cody finir l'histoire cette année.
Oui, c'était une mauvaise idée à la base. Plan, depuis l'an passé, le plan, c'était Cody Roman.
Exactement.
Cette année. Le Rock est revenu. Exactement. Et le Rock a dit, ben, je veux un match. Puis le match que je veux, c'est Roman.
Exact.
Donc là, à un moment donné, ben, il faut que tu essayes de rentrer un carré dans un rond.
Mais il aurait dû faire Cody contre Roman soit 1, puis Rock contre Roman soit 2.
À la limite.
Mais c'est ça qu'il aurait dû faire depuis le début.
Il aurait pu faire ça.
Maintenant, je trouve qu'ils s'en sortent quand même bien avec. Parce que je pense qu'il avait probablement promis à Seth Rollins un main event là-dedans. Ça doit être ça. Parce que sinon, pourquoi tu fais le tag match?
Moi, je te dirais qu'ils ont promis bien des choses, puis ils ont peut-être pas tout livré non plus.
La seule raison que Seth Rollins est là-dedans en ce moment, c'est parce qu'on veut qu'il soit dans le main event parce qu'il a la ceinture puis qu'il était le workhorse depuis le début de l'année. C'est la seule raison pourquoi il est dans ce main event. Il n'y a pas rapport là.
Ouais, mais
ils essaient de le forcer dans ce main event là.
Mais c'est quoi t'aurais fait?
Ben, Rock
Roman.
Rock Roman main event pour le head of the table.
Ah oui, mais là ça marchait plus ça. Rock voulait être heel rendu là. C'est ça l'affaire.
Non, je sais, mais avant que la foule réagit, avant que la foule réagit de même. Si Rock dit moi je vais affronter Roman à WrestleMania.
Ouais.
Tu dis parfait, tu le pognes night 2. Puis night one, ça va être Cody contre Roman. Roman parle de titre contre Cody.
Non, mais je comprends, mais attends une minute. Avant qu'on sache que Rock, la foule était pour le huer, le plan, c'est Rock-Roman, puis c'est Seth contre Punk.
Je sais.
Ou Seth contre Cody.
Je sais, mais qu'est-ce que...
Donc, il a son main event, Seth. C'est que là, Rock fait comme, non, laissez ma place à Cody. Parce qu'à partir du moment où tu ramènes Cody contre Roman, ben là, il faut que tu fasses quelque chose avec le Rock. Le Rock, faut que tu le mettes en main event, faut que tu le mettes heel. Il y a pas 56 solutions, c'est Rock-Roman. Puis si tu mets pas Seth avec Cody, tu manques quelque chose là aussi.
Il y a une partie de moi qui paierait beaucoup d'argent pour Rock Chad Gable.
Ça t'a... l'idée commence...
Il y a une partie de moi qui est comme...
Moi, je paierais beaucoup d'argent pour voir Chad Gable et Kurt Angle. Ça, c'est un match qui m'intéresse.
Aujourd'hui?
Même aujourd'hui, parce qu'avec leur style de lutte, Kurt Angle serait sûrement capable de se débrouiller.
C'est vrai.
Bref, voilà la situation dont je trouvais la question pertinente. Puis je voulais en parler. Les nouvelles. Qui remplace Scott D'Amore à TNA? Ça aussi, ça fait jaser.
Moi, j'ai pas de problème avec ça.
Parce que là, la personne qui le remplace, OK. Puis là, je vous explique qu'est-ce qu'il a fait jaser. Puis c'est quoi la situation en ce moment? La personne, pourquoi ça fait jaser, c'est que Dave Meltzer, vendredi dernier, a sorti dans son newsletter que c'était Tommy Dreamer qui était pour remplacer Scott D'Amore comme head of creative, comme responsable de l'équipe créative. Et là, finalement, Tommy Dreamer dit à Busted Radio, c'est pas moi.
Busted Open. Non, il a pas dit que c'était pas lui.
Il a dit que c'était pas lui qui était pour être le head of creative, mais qui faisait encore partie de l'équipe.
Il a dit qu'il y a rien qui a changé. Il a dit qu'il y a rien qui a changé depuis le départ de
D'Amore. Exact. Ouais. Donc, et là ensuite, PW Insider dit que c'est Ariel Schneider qui est un des dirigeants de Anthem, que j'ai déjà rencontré, qui déjeunait à Montréal avec une gang de journalistes de Toronto. On avait été 3 brasseurs au coin de Crescent puis Sainte-Catherine. Il voulait amener à l'époque plus de contenu sur Fight Network. Mm-hmm. Et il m'avait demandé mon opinion sur des feds ici au Québec. Bon, qu'est-ce qu'il pourrait faire avec le Québec? Autant passé que présent. Bref, c'est un ami Facebook depuis. On s'est jamais vraiment parlé. Mais je sais c'est qui. Donc, c'est lui qui serait head of creative. Et là, Meltzer, il a mangé un char, mais un char de merde de la part des fans en disant « tu dis n'importe quoi ». Quand je vous dis que l'information change rapidement ou des fois, tu as l'information de source que tu considères. Parce que je vous explique, parce que je trouve ça important. Des fois, les gens sont vite à critiquer et ils ne comprennent pas comment ça fonctionne. Dave Meltzer, lui, là, il parle à des tiers qui font affaire avec TNA. Et ces tiers-là se sont fait répondre à la question parce que, tu sais, il y a plein de promotions qui veulent travailler avec TNA ou avec des talents. et demande, ben là, OK, maintenant, Scott DeMore est plus là. À qui on parle, nous, si on veut booker des gens? Et tout le monde se fait répondre, Tommy Dreamer. C'est Tommy Dreamer qui est en charge maintenant. Hein? Et là, Dave reçoit cette information-là de la part de ces tiers-là. Alors, lui publie, selon les informations qu'il a, que Tommy Dreamer est en charge du créatif. Maintenant, Dreamer dit « Non, c'est pas moi ». Et là, il y a une autre nouvelle qui sort. Ben OK, parfait. Au moment où il a sorti l'information, Dave invente pas un nom comme ça. Là.
Non, non, je comprends. Mais du moment où il sort une information... Pis que c'est pas ça, c'est sûr qu'il va recevoir de la merde.
Je comprends, mais
faut
les
qu'il
gens,
assume.
Non, non, ben, pis il assume, Dave. T'sais. Mais les gens, je trouve, des fois, comprennent pas comment ça fonctionne.
Non, non, je comprends, mais c'est...
Au moment où il sort l'info, c'est parce que le monde dit, hey, écoute, moi, j'ai
non, mais
lu
les
plein
gens, les gens
là.
Comprennent rien. Ben les gens, on a beau leur expliquer 9 fois, ils comprennent pas. Fait que si tu sors l'information, t'assumes, là.
Mais non, mais il bien assumé, mais tu sais, j'ai lu des affaires comme Dave, il y a aucune source à nulle part. Mais là, voyons, là. Tu sais, de quoi tu jases, buddy, là?
T'sais, non, mais ça, tu sais, comme je dis,
ça
sert même pas de le mentionner.
Ben non, ben non.
C'est juste que si l'information, c'est pas ça, ben c'est sûr qu'il,
absolument.
Qu'il va manger un char de marde.
Absolument, absolument.
T'sais, si t'es pas sûr à 100%, t'en sors pas.
Ben
oui.
Ben, pas nécessairement.
Non, mais si t'es pas sûr à 100%, t'en sors pas.
Ben, au moment où il a sorti la nouvelle, lui, il était sûr ou il se considérait sûr.
Ben, il se considérait
assez
sûr.
Assez sûr pour le sortir. Et de ce que j'ai compris de cette histoire-là, c'est que Dreamer va quand même être la personne, en anglais, on dit le go-to guy. Tu sais, la personne que les promotions vont... Ariel Schneider, là, c'est pas lui qui va dealer avec New Japan ou avec les fédérations indies qui veulent avoir du talent de TNA. Tu comprends?
Non, je comprends.
Lui, il est là pour chapeauter une équipe.
Le head of creative, c'est ce dude-là. Puis Tommy Dreamer, c'est son bras droit.
Ben, c'est un peu comme Paul Levesque qui avait Vince McMahon en arrière de lui qui pouvait changer des décisions s'il voulait. Moi, c'est de même, ça m'a été expliqué. Tommy Dreamer va être le Paul Levesque de TNA, puis Schneider va être au-dessus de lui. S'il y a des calls à faire, ben c'est lui qui a le dernier mot.
À la fin de la journée, le head of creative, c'est lui.
Mais c'est pas lui qui va faire le booking comme tel ou qui va prendre toutes les décisions.
Mais le head of creative, c'est lui.
D'une certaine façon.
Ben non, pas d'une certaine façon. Le head of creative,
ben,
c'est lui.
On disait que Levesque était head of creative, ben, puis il y avait McMahon en arrière
ben
de
non,
lui quand
on,
même.
On vient de dire, ouais, il prenait pas toutes les décisions, McMahon ben, il en changeait.
Ben oui,
parce que McMahon, c'était le head of creative.
Ben oui, mais Levesque avait le titre de Chiefs de
Chief Operation COO.
COO. Il avait le titre pareil.
Oui, mais c'est pas COO, ça n'a aucun rapport avec Creative, là. C'est pas pour Creative,
ah,
là, COO.
Oui, c'était, non, c'était pas COO. C'était,
oui, c'était
Chief of Creative Control. Pas Chief of Creative Control. Je me rappelle pas exactement du titre. Attends, on va le retrouver, là. Parce que ça me fâche. Parce que c'est pas. Il y avait exactement ce titre-là. Pas Head of Creative. Mais il y avait le titre qui... je vais faire ça ici, Paul Levesque, qui a le
Chief
titre...
Chief Operating Officer.
Chief Operating Officer, bon. Chief Content Officer.
Mais moi, je vois...
CCO.
Moi, je vois... He is currently the COO, Chief Operating Officer of WWE.
C'est Chief Content Officer.
Mais moi, je te dis juste qu'est-ce que je lis en ce moment.
Mais je sais pas où tu lis ça.
Mais toi, tu lis quoi, ton CCO?
Je lis présentement sur Wikipédia. C'est CCO, Chief Content Officer. Fait que Chief Content,
c'est
le responsable
c'est
du contenu.
Que je vois, là.
C'est pas COO.
Ben tabarnak.
COO, c'est un comptable, Kev. Tu veux pas dire que j'ai pas comptable.
C'est quoi qui est écrit? Jason, mais, c'est quoi qui est écrit ici, Jason?
Mais le cas, c'est rien, là.
Jason, c'est quoi qui est écrit?
Mais t'es...
Je peux te dire COO, les amis.
Merci.
Mais t'es où, Kev?
Sur le même site que toi.
Mais OK, là, présentement, je suis sur WWE Inc. Et c'est Paul Levesque, Chief Content Officer.
Fait... Mais il est peut-être devenu Chief Content Officer après que Vince McMahon soit parti. Mais moi, je te dis que quand Vince McMahon il était là, il était COO.
Non, c'est le Chief Content Officer depuis au moins l'année passée.
Ben, depuis que Vince McMahon il est parti la première fois?
Non. Je suis pas mal sûr qu'il y avait ce titre-là l'année passée. Bref.
Mais ça se peut qu'il y a l'année passée, mais Vince, il est parti la première fois. Il est parti il y a 2 ans, Vince, la première fois.
Anyways.
Je veux parler que j'étais COO, puis il est peut-être devenu CCO avec quand Vince est parti.
Mais mon point, c'est qu'il était en charge du contenu avec Vince qui était en arrière de lui. De la façon dont ça m'a été expliqué, c'est un peu ça, la relation de Tommy Dreamer va avoir Ariel avec Ariel Schneider. C'est pas Schneider qui va booker le day-to-day, c'est Dreamer qui va être plus... Pis c'est normal, là, que tu regardes Tommy Dreamer, Robert Evans, Delirious. Delirious, c'est l'ancien booker de Ring of Honor. Robert Evans, c'est un agent qui a été à WWE pendant longtemps, mais c'est Dreamer qui va peut-être aussi servir de liaison avec les différentes promotions. Bref, voilà comment la situation m'a été expliquée, mais c'est juste ça que je voulais mentionner. C'est parce que des fois, ça me fâche que les gens se sont vite sur la critique, mais ne savent aucunement. Moi, je peux te dire, là, que le match de Elimination Chamber, là, Logan Paul, avec, qui c'est qu'on a, là, Orton, on a, Bobby Lashley, LA Knight, Drew McIntyre, Randy Orton, Kevin, puis Logan Paul, là, il y a exactement un mois, c'était pas ça, ce match-là.
Mais
et
ça
là, ça
peut.
A changé depuis.
Ça se peut.
Les réalités changent des fois. Donc, c'est pas que les journalistes.
Ouais, mais il y a une différence entre la réalité change et une différence entre c'est pas ça. Non?
Absolument. Absolument. Ça, je comprends ce point-là. Mais c'est quand même ça qui s'est fait dire par plusieurs personnes. Fait qu'à un moment donné.
Non, mais je comprends.
Mais... ça prend deux sources.
Je comprends ce que tu me dis, mais moi, je te dis.
À partir du moment, t'apprends deux sources. C'est juste que des fois, je trouve que les gens sont vite sur la gâchette.
Et oui, bon. les gens sont peut-être difficiles avec Dave Meltzer. Je suis capable de te l'accorder, là, mais à la fin de la journée,
je voulais juste, comme tu dirais, talk my shit.
Non, je comprends.
C'est tout. Queen Aminata, qui a été signée avec AEW. Donc, je voulais juste en parler. C'est pas nécessairement un super gros nom, mais c'est une fille que j'ai connue sur les Indies, qui vient de la Guinée, en Afrique, et qui parle un peu français. Ou qui connaît un peu de français. Donc, c'était toujours le fun de la côtoyer parce que, justement, je pouvais lui sortir quelques mots en français. Donc, elle a signé avec la compagnie. Elle qui fait partie, là, en
parce qu'il manque du monde assis au catering. Fait qu'il engage du monde. Il y a un angle de lutte féminine. Il y a un match de lutte féminine, mais on engage du monde. On n'est pas capable de les booker depuis 4 ans, mais on va les engager, guys.
Bref, je l'ai juste mentionné.
What the fuck do I know?
Prix du Pro Wrestling Illustrated. Ça te tente-tu de t'essayer? Ouais. Donc, Pro Wrestling Illustrated...
Ah, chaque année, ça me fâche, ça.
Non, c'est les Wrestling Observer Newsletter qui te fâche. Okay. On va les avoir la semaine prochaine, ça sort ce vendredi. Mais là, c'est les Pro Wrestling Illustrated. C'est voté par les fans qui lisent le magazine et qui votent. Mais également, faut penser que c'est surtout nord-américain. Le Japon est toujours un peu moins populaire dans les choix parce que c'est un magazine nord-américain à la base. Ça marche? La recrue de l'année, tu l'auras pas, fait, je vais te le dire, là. Sol Ruka, la lutteuse à NXT.
Oui, elle est full bonne, elle. Mm. Elle est excellente, elle.
Ben, ça a été nommé la recrue de l'année.
Elle est excellente.
Lutteur s'étant le plus amélioré.
Le plus amélioré?
Oui. Je vais te faciliter la tâche, c'est un lutteur.
Swerve Slick Strickland?
Non, LA Knight.
Mon contrat, je trouve qu'il a régressé cette année, mais c'est correct.
Le plus populaire?
Le gars s'est fait body par Miz au micro pendant 3 mois, puis il a pas amélioré sa lutte pour 2 scènes. OK.
Les gens mélangent souvent améliorer et avoir un plus gros push. Je pense que c'est là qu'on peut expliquer le choix d'LA Knight. Okay. Ça devrait pas être le plus gros push. T'as raison là-dessus. Populaire, le plus populaire?
Mais plus populaire, c'est Cody.
Ouais. Plus détesté.
Ben, moi, j'allais dire Roman, mais s'ils ne mettront pas Roman.
Qui se fait huer à chaque fois qu'il arrive dans le ring.
Ah, Dom.
Ouais. C'est pas un mauvais choix, là. Rivalité de l'année.
Ben, il y a des gens qui vont dire Swerve contre Hangman.
Non.
Cody contre Roman.
Non.
Ben, là, tu vas me sortir une affaire de marde.
Ah, oh, pas du tout.
Non, OK.
Pense local.
Comment local?
Pense au Québec.
Kevin Owens et Sami Zayn contre le Bloodline?
Sami contre le Bloodline. Okay, ouais. Qui a été une des bonnes rivalités de l'année. Là. Lutteur indie de l'année. Ça, c'est un prix que j'aime bien du PWI.
Je sais pas.
Matt Cardona.
Ben oui, c'est le Indie King.
Ouais. Match de l'année. L'oblige Japon, là. Fait que c'est pas Will Ospreay. Tu vas même
ça,
être
ça,
surpris.
Ça va être une affaire de AEW?
Non. Rhea Ripley contre Charlotte Flair à WrestleMania.
Ben c'est vrai que c'est un. Ben, c'était pas mon match préféré, mais c'était un bon match.
L'équipe de l'année. L'équipe de l'année.
Ben, Judgment Day?
Non.
Ben, ça fait pas de sens.
FTR.
Ça fait pas de sens.
Et Kevin et Sami sont deuxièmes.
Mais ça n'a pas de sens. Judgment Day ont été champions toute l'année.
Ben non, ils n'ont pas été champions toute l'année.
Non, mais la majeure partie de l'année.
Non, c'est Kevin et Sami qui ont été champions la majeure partie de l'année. Les Ousos ont été champions de janvier à avril. Sami et Kevin ont été
champions 3 mois.
Ben, janvier, février, mars.
OK.
Kevin et Sami ont été champions d'avril à septembre.
De avril à septembre?
Ben oui, c'est en septembre qu'ils ont perdu les titres. Il y avait les titres à Québec au mois d'août.
Ouais, c'est vrai, t'as raison.
Puis Judgment Day a été champion le reste de l'année. Puis ils ont échangé leur titre avec Cody puis Jey Uso.
Ouais, pendant 3 semaines, là.
Mais ils ont quand même perdu le titre à travers ça.
Ouais, mais je sais, mais ils ont été champions 2 fois.
Ils ont été champions 2 fois.
Pour moi, ça fait pas de sens qu'ils sont pas dans le top.
Ben, je pense qu'ils ont peut-être fini 3e, là, j'ai pas le résultat au complet. Le clan de l'année, par contre.
Judgment Day?
Ouais, exactement. Femme de l'année. Et ça, je dois dire, je déteste ce prix-là. Je déteste qu'ils utilisent encore femme de l'année. J'avais ça dans mes prix au début.
Pourquoi qu'ils disent pas lutteuse?
Ben, c'est parce qu'ils veulent inclure les valets, ils veulent inclure. Mais je veux dire, que la valet soit dans une autre catégorie, tu comprends? Mm-hmm. Tu sais, dans gérant ou non-lutteur de l'année. Mais j'aime pas ça, femme de l'année. Il n'y a pas homme de l'année, c'est lutteur, tu comprends? Ouais. Bref, femme de l'année ou lutteuse de l'année.
Rhea Ripley.
Oui. Et lutteur de l'année.
Cody. Roman?
Non, l'autre champion. 7.
Ah ouais?
Ben, tu sais, oublie pas, c'est les fans qui votent. Les fans aiment 7 parce qu'il défend son titre puis il est là chaque semaine.
Non, mais les fans ne comprennent pas le business.
Je comprends, mais ils l'aiment 7. Et voilà. Donc, les prix du PWA la semaine prochaine, ça va être les prix du Wrestling Observer Newsletter.
L'affaire qui n'a pas de sens. Là.
Mais non, mais ça a du sens. Ça dépend des prix. Ça dépend si tu es d'accord avec ou pas. Tu sais, il y a des prix qui font bien du sens. Moi, de ce que j'ai su à date, c'est que il n'y aura pas grande surprise dans ce qu'on va avoir comme gagnant de ces prix-là. Donc, moi, c'est ce que j'ai su. Voyons voir. Ça sort vendredi et on va en parler la semaine prochaine. L'infirmerie.
Oh, l'infirmerie.
C'est tough, celle-là. Shotzi, c'était tough à regarder.
Ouais, Shotzi qui ne sera pas dans le ring.
Au moins 9 mois.
Pour une période d'environ 9 mois, elle s'est déchirée le ligament croisé antérieur dans un match à NXT. Donc, ouais, c'est c'était pas agréable à voir loin de là. Et puis, ben, c'est ça. Donc, on verra pas Shotzi avant un petit bout, peut-être même, peut-être Royal, tu sais, 9 mois. Peut-être Royal Rumble l'année prochaine. Ah. Ça ressemble à ça. CM Punk, de son côté, lors du UFC 298, a dit qu'il serait absent pour environ 6 à 8 mois. Donc ça aussi, c'est long. Là.
Ben, c'est Royal Rumble l'année prochaine. Là.
Ou un petit peu avant. Ça pourrait être Survivor Series ou s'il y a un Arabie Saoudite. Parce que c'est
tant qu'à ça, tu l'amènes à Royal Rumble.
Ben, c'est 6 mois à partir de, il y a quoi, 2-3 semaines.
Ouais, mais
fait que ça nous amène peut-être fin août, début septembre, au plus tôt.
Tant qu'à
tôt.
Ça, tu l'amènes au Royal Rumble.
Ça dépend toujours ce que t'as. Ça dépend toujours ce que t'as. Jeff Hardy, de son côté, a subi une blessure au nez. En fait, il a le nez cassé. C'est Sammy Guevara qui lui est tombé dessus avec un Shooting Star Press. Et puis, son côté gauche, en fait, qui est tombé directement sur la tête de Jeff Hardy. Il n'y a pas eu de commotion, ça c'est la bonne nouvelle. Un nez cassé, t'en reviens plus rapidement.
C'est moi ou...
T'as quelque chose sur Guevara, là?
Hey, ouais. Tu dis ça comme si...
Non, mais c'est-tu là que tu t'en vas?
C'est-tu moi ou...
Ça arrive quelques fois que Guevara blesse des gens, c'est ça tu veux dire?
Je suis pas lutteur dans la vie, là. Ben, il a manqué sa cible puis manqué sa cible. Là.
Il a manqué sa cible puis manqué sa cible. Mais des lutteurs qui manquent leur cible sur non, des sauts, tu sais, combien de fois qu'on a vu Yosuke manquer sa cible?
Ouais, mais il y a une différence entre manquer sa cible puis juste pas atterrir sur la personne.
Ouais.
Puis manquer sa cible puis atterrir les jambes sur sa face.
Je comprends.
Mais je suis pas lutteur, fait que je veux pas.
Mais non, mais je pense que, en tout cas, t'essayes-tu d'insinuer qu'il aurait fait par exprès?
Non, c'est pas ça que je dis. Je dis juste que. La phrase que tu utilises souvent, c'est careless motherfucker. Je l'ai pas utilisé. Juste que y a une phrase que tu utilises souvent.
Oui, absolument. Absolument. Mais faut que tu sois en contrôle de ton corps, faut que tu fasses attention. Ça, y a pas de doute là-dessus.
Mais les gens coûtent trop cher pour qu'on leur tombe dans la face avec des jambes. tout ce que je disais. Ça.
Non, non, effectivement. Puis c'est quelque chose que, tu sais, j'espère à quel point ça arrive souvent que sans nécessairement péter le nez à quelqu'un qui tombe un peu pas bien sur son adversaire dans ces moves-là, je ne sais pas ça. Donc, c'est peut-être quelque chose.
Ça me dérange pas.
Non, non, mais dans le sens, c'est peut-être quelque chose qui lui a déjà été adressé. Puis là, c'est juste pire. J'ai aucune idée. Mais effectivement, je veux dire, c'est le genre de choses que tu essaies d'éviter. Maintenant, bon, c'est peut-être la première fois qu'il blesse quelqu'un avec son shooting star, puis ça arrive, là. Tu sais, T.J. Wilson, on n'a jamais voulu à Samoa Joe.
Non, je sais, mais me semble que Sammy Guevara est dans cette situation-là souvent. Puis il me semble que quand c'est Nia Jax, on en fait un plus gros plan.
T'as raison. T'as raison, c'est parce que Nia Jax est pas bonne en plus.
Non, je comprends, mais...
Fait que j'ai moins de sympathie pour une fille ou un lutteur même qui est juste pas bon, puis en plus qui blesse les gens, que pour un lutteur qui est talentueux, qui est spectaculaire, mais effectivement, de temps en temps, il contrôle pas son corps. Il faut qu'il fasse attention. Dans les deux cas, il faut qu'il fasse attention.
Mais je dis pas que c'est une mauvaise personne. Puis je dis pas qu'il a fait par exprès.
Ben non, ben non. Chronique judiciaire.
By the way, la classique, c'est le 10 août.
10-4. 10-4 ou 10 août?
10 août.
Mais c'est pas ça que tu m'avais donné comme date?
Ouais, mais on a changé.
Tu m'avais pas donné le 10 août comme date?
Non, hein? Je t'avais donné le 22 ou 23 juillet.
Moi, j'avais ça à mon agenda pour le 20 juillet.
Le 20 juillet.
Et là, c'est quand?
Le 10 août.
Puis le 10 août, y a-tu quelque chose d'autre cette fin de semaine-là?
Il Sonic, là.
OK, non, non, mais c'est pas comment t'appelles ça? SummerSlam? Non?
Ah, pas vrai?
Non, non, je sais pas. SummerSlam 2024. Ça n'a pas été annoncé encore, SummerSlam. On a des rumeurs que ça va être à Cleveland, mais ils n'ont pas annoncé de date, mais ça pourrait être le 10 août.
Ben là, à un moment donné, là. J'ai mis ça, je pouvais pas le mettre le 6 à cause de Money in the Bank à Toronto.
Ah, ben c'est Money in the Bank. Mais non, Money in the Bank, c'est le 6 juillet.
Le 6 juillet, si on pouvait pas mettre le 6 juillet à cause de Money in the Bank à Toronto.
Ouais.
Le 13, j'ai eu une demande d'une madame qui m'a dit, tu peux pas mettre la classique le 13 parce que je me marie. J'ai dit, OK.
Le 13, techniquement, t'aurais pas pu non plus. Mais continue.
Mais tu vois, cette date-là vient de changer aussi.
Ah oui, OK. Ouais.
Okay. Là, après ça, ben oui, j'aurais pu, j'aurais fait la classique puis j'aurais flyé là-bas après.
Ah,
là.
OK.
Après ça, le 20, c'était la date ultime.
Ouais.
Là.
Ouais.
Mais là, il y a un mariage. Okay. Avec beaucoup, beaucoup de joueurs noirs qui vont y aller.
Ah.
Fait que...
Tu peux pas dire qui se marie, j'imagine? Okay.
Là, après ça...
Je le connais, j'imagine? Même pas? Ben oui.
Ben, tu l'as jamais vu, là?
Ah non, mais okay. Je sais c'est qui.
Ben oui, tu sais qui de nom, là.
OK, ouais. OK, c'est bon.
Après ça... après ça, c'est quoi?
Ben après ça, on est rendu
le 26,
au
26. Ça devrait être la date...
Au 27 juillet?
La date de qu'est-ce qu'on peut pas nommer.
OK.
Après ça, le 3, c'est Oshiaga.
Ouais.
Je touche pas à Oshaga.
Je comprends.
Puis là, on tombe.
Fait, tu vas t'attaquer à l'île Sonic.
Ben, Sonic est shit.
À choisir entre les deux.
À choisir à
puis là,
samedi.
Puis là, après ça, trop tard. Puis là, après ça, tu tombes trop tard.
Après
là.
Ça, je tombe trop tard. Là. Les gars, faut qu'ils repartent avec leur famille. Puis les je rookies, comprends. Ils partent début août d'habitude. Mais là, cette année, on transporte du monde.
Mm-hmm.
On a déjà eu un nom. Qui...
On transporte du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? On transporte.
On a un budget.
Tu les téléportes?
On a un budget pour faire venir du monde d'avion.
En avion,
oui. Oui.
OK.
Puis les loger.
OK.
On a déjà une confirmation.
Là, c'est pas du monde comme toi, mettons, qui prennent l'avion pour aller à Trois-Rivières. Là.
Non. Là, c'est quelqu'un. Hey, je conduis jusqu'à Mont-Joli samedi, là, dimanche. Là.
Il m'a dit ça. Il m'a dit, Jace, qu'il était pour conduire jusqu'à Mont-Joli, je le croyais pas. C'est 8 heures de char.
Tout ça pour les kids.
Tu trouves Ottawa long,
tout ça pour les kids. Tout ça pour les kids. Tout ça pour les kids. Mais ouais.
Ouais. Donc, 10 août.
Ben, 10 août. Puis je donne un indice aux gens.
Pour le nom que tu peux pas dire, mais tu vas donner un indice.
EB.
EB, Eric Bischoff.
OK, Pat, fuck you.
Eric Bischoff va être là. Wow! Wow!
J'aimerais ça booker Eric Bischoff à Classic, voir pour coacher.
Eric Bischoff, Easy E in the house.
Ah, je pense pas, groupe.
Mais EB, le vide de même, il n'y a aucun nom qui me vient en tête, mais quand je vais y penser, probablement Jace. Jace a déjà un nom. Jace a déjà un nom. Mais on ne dira pas, mais Jace a déjà un nom.
Mais c'est très facile.
Ah non, mais là, c'est juste que je pense pas. Ouais.
Je dis juste que cette année, parce que là, on prépare notre 10e, puis pour que le 10e soit à la hauteur de ce qu'on veut.
C'est-tu avec le 10e pour vrai?
L'année prochaine.
Ah oui, OK.
Mais on fait comme si c'était le 10e cette année. Parce que le 10e, on vise quelque chose d'un petit peu plus gros. Fait que là, on est obligé de faire les choses différemment cette année. Donc, les billets devraient être en vente dans entre 7 et 10 jours. On va vous prévenir, achetez vos billets rapidement.
Ah, ouais? Jace m'a texté un nom. Ah, ouais? OK. Tu vois, je suis pas sûr que je me serais rendu là.
Mais...
Baby, je comprends parfaitement comment tu l'as booké.
Metteur en onde for the win.
Il était okay. Vite, par exemple, man.
Ouais, mais vraiment vite. Jace, puis le hockey, ça marche ensemble. Chronique judiciaire, bon, faut parler d'Ashley Massaro.
Ben là, il faut. Là, parce on est rendu.
Ben, tu sais, ce qui arrive en ce moment, là, c'est exactement ce que je m'attendais qu'il arrive en 2022.
En 2022. Non, en 2020, quand le MeToo est arrivé.
Non, en 2022, quand McMahon a démissionné la première fois.
Ben moi, je pensais que ça allait arriver.
Parce que toutes ces histoires-là, là, on les connaissait en 2022. Bon, oui, pas dans le détail qu'on a su avec la couleur de certains objets et puis tout ça. Là. Mais c'est des histoires en surface qu'on connaissait. Ouais. Et il n'y a rien qui en a découlé. Puis McMahon est revenu.
Ouais.
Et là, tout revient. C'est comme le jour de la marmotte, mais là, tout revient. Et là, c'est important. Là, on comprend l'importance de tout ce qui est arrivé là. Ouais. Donc, Ashley Massaro avait dit qu'en 2006, elle s'était fait violer sur une base militaire au Koweït lors d'un événement de la WWE par pas quelqu'un de la WWE, mais quelqu'un quelqu'un qui se passait pour un docteur militaire au Koweït. Et puis, elle en avait parlé à la WWE. Et elle avait dit que la WWE lui avait dit de ne pas en parler, que c'était mieux pour leurs intérêts avec l'armée de ne pas mentionner ça.
Puis c'était même pas pendant un tribute to the troop, là. C'était pendant une apparition pas télévisée. Il y avait elle, il y avait Ron Simmons. Puis là, je vais pas nommer les noms qui étaient pas, mais je pense que R-Truth était là aussi. Donc, il avait envoyé quelques gens là-bas. Pour faire la promotion de la WWE et c'est ça.
Et elle a signé un affidavit avant de passer à l'acte il y a quelques années, comme quoi elle donnait vraiment sa version des faits de tout ça. Et là, il y a une de ses amies qui a fait une entrevue cette semaine pour dire tout ce que Ashley a dit est vrai. Moi, elle dit lorsqu'elle est revenue, elle est venue chez moi puis elle a passé 8 heures de temps à pleurer et à me raconter tout ce qui était arrivé. Et l'ami en question dit que Ashley Massaro se sentait menacée par la WWE, tu sais, de ne pas parler, là. Tu sais, ça venait avec des menaces. Et qu'il y avait aucune compassion, aucune sympathie de la part de la WWE. Qu'elle en a parlé à Vince McMahon à plusieurs reprises. Et puis que c'est ça, on lui a demandé de couvrir ça puis de pas en parler. Maintenant, il y a deux autres choses qui sont sorties depuis. C'est-à-dire John Laurinaitis, qui lui se fait T'sais, par la bande, là, il est impliqué dans l'affaire de Vince McMahon. Il s'est un peu tourné contre Vince d'une certaine façon en disant, ben, oui, c'est vrai que la WWE était au courant de cette affaire-là. Par contre, il n'y a pas eu cover-up, puis les bons protocoles ont été suivis. Bon, à partir du moment que tu as menti une fois,
ben, c'est ça.
J'ai de la misère à croire le reste de l'histoire, bien personnellement, même si je suis pas au courant, mais ça paraît mal, mettons.
C'est juste qu'ils ont... Ils ont fait des pieds et des mains pour dire « Hey, on savait pas, on a... » Tu sais?
Et là, finalement,
on savait, il y a eu des protocoles, il y a eu ici. Mais pourquoi tu nous as pas dit ça au début?
Ben, exactement. Exactement. Tu sais, parce que là, il est pogné avec un autre poursuite. Ben là, il veut... J'imagine qu'il veut passer pour le moins pire des deux.
Exact. Puis là, il veut mettre ça sur le... Tu sais, il veut... En tout cas.
Ben oui. Non, exactement. T'sais.
Puis juste pour...
Et là, Massaro a aussi dit que McMahon... tu sais, il... en anglais on dit praying là, c'est pas prier là, mais c'est il faisait
c'est praying, on parle beaucoup de ça dans le monde animal pour sur une proie,
sur
là.
Une proie, c'est ça, ouais. Tu sais, c'est chasser sa proie, la regarder, ouais. Tu sais, comme si c'était une proie, en ouais. fait. Et que McMahon faisait ça à plusieurs lutteuses ou femmes qui travaillaient pour la WWE. Et puis lorsqu'on lui a demandé à son ami en question, est-ce que ce viol-là est la raison pourquoi Ashley Massaro s'est suicidée, et son ami a dit à 99% oui.
C'est ça. Là, faut juste faire attention aussi parce que la fille d'Ashley Massaro est sortie sur X hier pour dire, j'ai enfin le courage d'aller sur Internet puis voir ce qui se dit sur ma mère. Puis elle dit aussi que la personne qui parle en ce moment dans les médias ouais. n'était plus amie avec Ashley Massaro depuis longtemps et que Ashley Massaro serait vraiment pas très heureuse que ce soit elle qui porte ce message-là.
Je comprends. Par contre, elle était amie avec en 2006.
Ouais, mais moi, je dis juste que la petite fille est sortie. Elle a dit, je dis pas que c'est pas arrivé à ma mère, mais je dis juste que le message qui est porté actuellement, c'est pas la bonne personne qui le fait. Puis ça, faut aussi le mentionner dans l'histoire. Absolument. Parce que c'est quand même un élément qui est important. Là.
Alors, je sais pas qu'est-ce qui va en ressortir, mais c'est sûr qu'il y a des questions qui se posent en ce moment sur cette situation-là. Et on n'a pas fini d'en entendre parler.
Non, puis j'espère que non. Parce que c'est dégueulasse ce qu'ils ont fait, là.
Ben, si tout est arrivé comme ça a l'air d'être arrivé, effectivement. Ben,
juste le fait qu'il ait menti, puis qu'il savait.
Ouais.
Juste ça, là. C'est mais
dans terrible. La mesure, évidemment, dans la mesure où l'orientatiste dit vrai. Tu comprends?
C'est une affaire signée de la. Que l'avocat a sorti, là.
Oui, je comprends. Oui,
mais
là,
mais c'est quand même signé par la cour. Oui, il se parjure s'il ne dit pas la vérité.
Effectivement.
Fait que du moment que c'est signé par la cour, il faut assumer que c'est vrai, sinon il...
Il y a une firme d'avocats également, parallèlement à tout ça, qui va faire un recours collectif contre la WWE. Donc, une firme d'avocats de Chicago qui envoie un message un peu à tout le monde, qui se spécialise dans les recours collectifs pour justement des victimes d'agressions sexuelles ou d'abus sexuels, et qui envoie un message à tous et à toutes. Si vous avez subi des agressions sexuelles, des abus sexuels, si homme ou femme, à la WWE ou au UFC, ben contactez-nous. Puis nous, on va monter un recours collectif. Fait qu'il y a ça également qui sort d'année. Je sais pas si la firme d'avocats va avoir des appels, mais il y a ça qui est mais en
on,
parallèle.
On voit souvent ça quand il y a un scandale où une firme d'avocats va s'impliquer d'une façon ou d'une autre.
Là. Exactement. Paul Roma, l'ancien lutteur qui était à la WWE 87 à la 91, qui faisait partie entre autres des Young Stallions avec Jim Powers, a fait, puis avec Hercules pour Power and Glory, a fait une entrevue où il disait, entre autres, là, ce qui est surtout important dans tout ce qu'il a dit, c'est qu'il y avait beaucoup de lutteurs à la WWE qui se faisaient proposer, c'est pas le bon verbe, là, mais qui se faisaient, je veux pas dire non plus harceler, mais c'est peut-être
proposer,
plus proche.
C'est le bon mot, là. C'est le mot qu'il a utilisé.
Ouais, c'est
là.
Ça. Oh, ouais. Mais en anglais, c'est proposition, là.
Ouais, ouais, mais c'est des propositions qui sont, dépassent les bornes.
Des propositions indécentes. Ouais. Par des gens de la compagnie.
Ouais.
Donc, des hommes qui subissaient ce sort-là par des hommes qui travaillaient dans la compagnie. Il a pas nommé personne. Il est resté très, très flou, très, très vague. Il dit que c'est la raison pourquoi son partenaire, Jim Powers, serait parti de la WWE. Et là, ben, évidemment, c'est rien qu'on n'a jamais entendu. Mm-hmm. Mais il y a Lee Cole, le frère de Tom Cole,
ouais.
qui a fait une entrevue avec un ring boy qui s'appelle Sean et qui, dans l'entrevue, parle carrément de Mel Phillips et de Terry Garvin.
Ouais.
De Mel Phillips, puis encore là, c'est rien, j'ai jamais lu. Mais tu sais, quand tu lis ça, ça demeure troublant. Tu sais que Mel Phillips, il y avait son harem de ring boy,
ouais.
dans les chambres d'hôtel, il pouvait jouer avec leurs orteils.
Ouais.
Tu sais, puis ils pouvaient, mettons, se mettre par-dessus eux autres, assis sur leur bas du corps, en train de faire un peu de lutte, entre guillemets. Tu sais, c'est les choses qu'on accusait Mel Phillips. Pis c'est pas pour rien que Mel Phillips a été congédié ultimement. Terry Garvin, il y avait rien sur Terry Garvin à part qu'il trouvait qu'il donnait... il trouvait cringe. Tu sais, en termes d'aujourd'hui, là, c'est ça qu'on dirait, il trouvait cringe. Mais il y avait rien sur Terry Garvin comme tel. Et ce qui m'amène à juste faire une parenthèse, parce que il y a des gens qui ont profité de ça pour ramener Pat Patterson sur le dossier. Et je répète que Pat a rien à voir avec ça. Il y a eu une enquête qui a été faite à l'interne à cette époque-là. Phillips et Garvin ne sont plus jamais revenus travailler pour la compagnie. Pat a été là pendant 30 ans encore. Ouais. Et il y a même quelqu'un qui m'a faussement cité sur les réseaux sociaux. J'ai même pas répondu, là, mais qui m'a faussement cité en disant que j'avais dit, écoute bien ça, Kev, que j'avais dit que Pat Patterson molestait des enfants.
Oh mon
pour
Dieu.
Le fun. Tu sais, c'était une joke qui molestait. Tu sais, il faisait ça en joke. Alors que de un, j'ai jamais dit ça. Et de deux, Pat a jamais molesté d'enfant. Puis ça, c'est des gens, c'est Billy Graham, je pense, entre autres, qui avait dit ça. Puis Billy Graham s'est rétracté dans son livre, là. Puis il a toujours dit qu'il avait regretté par la suite d'avoir dit ça sur Pat. Alors imaginez comment moi, je suis jamais passé proche de dire ça. Mais c'est justement, tu sais, c'est des histoires qui partent de tout bord, tout côté. Les gens prennent pas la peine de le lire. Il y a des trolls là-dedans. Puis là, ben, mon nom a été lancé là-dedans en disant, ben, Pat, la Prade a toujours couvert Patterson. J'ai fait, regardez, là. Vous l'avez pas connu, vous, le monsieur, là. Puis moi, j'ai parlé à plein de monde, là. Puis il y a plein de choses. Regarde, je reviendrai pas sur le sujet. Mais Mel Phillips, Terry Garvin, eux autres, c'est des histoires qu'on a entendues.
Souvent.
Puis c'est des noms qui ont souvent été nommés, puis ça l'est encore. Bref. Évidemment, tout ça ressort en ce moment à cause de l'affaire de Vince McMahon. Mm-hmm. Donc, tous les squelettes sont en train de ressortir des placards en ce moment. Lutte québécoise. Lutte québécoise.
On recommence.
Lutte québécoise. Lutte québécoise.
Laissez pas tranquille.
Lutte québécoise. Juste mentionner que je trouve ça cool, la ICW a été mentionnée dans le Journal de Montréal. J'en ai parlé la semaine dernière avec le maire.
Ouais.
Avec le maire, bon, ben, il y a eu.
Quelqu'un qui m'en a parlé en tournage. Je tourne pour Télé-Québec. J'ai tourné pour Télé-Québec cette semaine.
OK.
Et il y a quelqu'un qui m'a dit que j'étais là lors de l'événement, puis j'aime y aller. Puis là, il est super excité parce que je pense que le maire il a dit qu'il allait peut-être avoir une ceinture.
Oui, il va avoir une ceinture. Une ceinture à la Maison de la Culture.
Tout le monde est ben excité dans le quartier, là.
Bon, ben, tant mieux. Moi, c'est un bel article que Louis-Philippe Mincier a écrit dans le Journal de Montréal. Et puis, je suis content parce qu'il a retenu de mon entretien avec lui. C'est ce que je vous dis depuis le début. C'est que la lutte sera toujours méprisée par beaucoup de gens du milieu artistique. Alors, je trouve extraordinaire qu'elle fasse officiellement partie de l'offre culturelle d'un arrondissement. Puis ça, vraiment, je le pense. Puis il y a bien des gens qui essaient de critiquer le fait que... parce que le maire a été dire les 200 billets gratuits disponibles se sont écoulés en 8 minutes. Et là, il y a bien du monde de la lutte au Québec. Ils disent, ben oui, c'est sûr, c'est des billets gratuits. Hey. Non, de un, c'est pas parce que tu donnes des billets nécessairement qu'en 8 minutes, tous les billets vont prendre preneur.
Mais premièrement...
Parce que c'est toi qu'il faut qu'il aille faire cette demande-là d'avoir des billets.
Premièrement, là, ceux qui remplissent pas leur salle, puis qui essaient de donner des billets puis qui remplissent pas leur salle pareil, là,
exact.
Qui aillent chier.
Bon.
Merci.
J'ai plus rien à ajouter. Coup de cœur. Tu devrais toujours m'accompagner quand je m'obstine.
Non, parce
sur
que des fois,
québécoise.
Tu t'obstines pour rien, je veux rien savoir.
Non, mais m'as-tu vu, là, je me serais obstiné pour rien, t'as fait un commentaire, puis j'ai pas eu à ajouter rien. C'était un bon dynamite. J'ai aimé Moxley puis Dax Harwood. Je parle toujours en termes de qualité de match.
Oui, mais en termes de qualité de match, ça va toujours être bon. On comprend pas les histoires!
Mais l'histoire de Christian, moi j'ai adoré ce bout-là.
On n'a pas vu Christian depuis Montréal!
Ben non.
On les a pas.
Ben non, là t'exagères là, qu'on n'a pas vu Christian.
C'est quand la dernière fois que Christian était à Dynamite?
Ben là, c'est une bonne question là.
Parce que pour vrai, je pense que c'est Montréal.
Ah ouais? Ben, hein? Ah non, je peux pas croire.
Ben on l'a pas vu les trois dernières semaines.
OK. Mais c'est quoi ton point?
C'est le TNT Champion.
Ouais.
C'est le champion de la télévision.
Ouais.
On le voit plus à télé. Adam Copeland fait en ce moment une histoire où il affronte des gens dans des défis ouverts pour monter au classement puis devenir aspirant numéro un au titre de champion du monde. C'est quoi l'affaire de revenir à ce feud-là? Il était pas réglé? Je comprends pas. Shit.
Je sais pas depuis combien de temps, mais effectivement, c'était...
Mais moi, je pense que c'est Montréal.
C'était bien le retour, mais je réalisais pas que ça faisait depuis Montréal.
Mais c'est bad, là.
Puis moi, je parle tout le temps de Dynamite. C'est leur flagship show. C'est là qu'ils devraient montrer des trucs. Puis il y a même quelqu'un qui m'a envoyé un tweet. Un qui m'a envoyé un tweet. Puis je regarde jamais mes tweets. Hein. Moi, je m'en bats le derrière de mes tweets. Là. Mais il a dit que c'est vrai qu'il n'y avait pas de Dynamite. C'est vrai qu'il y avait.
Ouais, mais attends une minute, là. Christian, il y a eu un. C'est ça, là. Il y a eu une blessure au bras. Christian.
Ouais, il peut pas faire des vidéos package. Il peut pas être dans le show.
Non, mais là.
Mais non, mais c'est vrai. Il peut pas faire des vidéos package. Il peut pas être dans le show. Adam Copeland, là, il est assis. Pas Adam Copeland. Adam Cole, il est assis sur une chaise. Depuis trois mois. Arrêtez, là.
Moi, j'ai aimé quand même Stangle, là.
Arrêtez, là.
Moi, je l'ai aimé. Je trouve que ça les gens ont bien réagi, ça a eu de la réaction, c'était bien fait, moi j'ai aimé ça. J'ai aimé aussi la promo de Samoa Joe puis de Swerve Strickland.
Ouais, ben ce bout-là c'était bon.
Oui. Ouais.
Ben parce que Samoa Joe puis Swerve au micro sont bons, puis Hill Hangman c'est intéressant aussi. J'ai aimé que les Bucks arrivent avec leurs vêtements pleins de sang. J'ai pas aimé qu'ils luttent avec par exemple, mais j'ai aimé qu'ils arrivent avec. J'aurais aimé ça qu'ils luttent sans la veste là, mm-hmm. parce que ça fait un peu goofy avec la veste, on peut pas les prendre au sérieux. T'sais, au pire, remets la veste quand t'as fini. T'sais. J'ai aimé comment il luttait. Il luttait quand même en heel, même s'il faisait quand même des manœuvres high-flying, mais ils nous ont quand même coupé la moitié de leur arsenal. Top Flight, c'est des bitches. Là. Genre... Non, mais là, à chaque fois qu'on a besoin de quelqu'un perd, Top Flight.
J'ai aimé la finale. Orange Cassidy avec Matt Taven.
Moi, c'est pas que j'ai pas aimé. J'ai pas compris pourquoi c'est Matt Taven qui est dans l'événement principal de Dynamite.
Encore là, je reviens à ce que j'ai dit. J'ai aimé le match.
Je comprends, mais moi, je te parle d'expliquer-moi pourquoi. Pourquoi Matt Taven est dans l'événement principal? Pis c'est qui? Moi, je sais c'est qui. Je l'ai vu à Ring of Honor être champion. L'un des champions les moins respectés de Ring of Honor, mais c'est correct. Il était champion. Mais on m'explique pas c'est qui! Je sais c'est qui, moi! Mais les gens savent pas c'est qui!
Ben, il y a des gens qui le savent.
Mais il y a pas assez de gens. Puis O'Shea Jackson a eu la... J'ai adoré son take à O'Shea Jackson. Je vous encourage tout. Je pense que je vais le retweeter là, sur X. Je vais même nommer la personne qui m'a...
Qui O'Shea Jackson?
C'est le fils... c'est O'Shea Jackson?
Je sais pas, de qui tu parles? O'Shea,
c'est le fils à Ice Cube. T'es un gros fan de lutte.
Mais c'est ça. Qui O'Shea Jackson? Dites-nous-les, c'est qui O'Shea Jackson? Pourquoi tu me parles de quelqu'un que personne connaît?
Pas ça. Wow. Là, on va se calmer pendant 2 secondes. Là. OK? On va se calmer pendant 30 secondes. Là. OK? Parce que sur un show de 2 heures, là,
il est pas sur le bon show.
Si mon main event, c'est O'Shea Jackson, trust me que tu vas avoir un build-up sur savoir c'est qui O'Shea Jackson.
Mais Jace, je veux que tu te prépares puis chie-moi pas dans les mains, mais j'aurais pensé que le fils d'Ice Cube aurait écouté NWA.
Il a joué dedans.
Hein?
C'est lui qui a joué Ice Cube.
T'as pas compris. Jace!
Non, mais Jace non plus, il a pas compris.
Il écoute AEW?
Ouais.
J'aurais pensé qu'il aurait écouté NWA.
Wesh, no, don't do it, Jace! Don't do it! That. NWA Power!
C'est pas ça que je voulais que tu fasses. Oui, mais tu fasses le drum roll.
Non, mais c'est tellement un jeu de mots.
C'est un
marde.
Jeu de mots.
Hey, de marde, là. De marde.
Commence bien mal ta carrière,
ben
le
oui,
kid.
Ben oui, non, t'as bien. Ah, oh, merci, Jace. Merci, Jace.
Bon, j'ai perdu le contrôle de mon show.
Mais de ton show, va chier. Mais il expliquait, il dit, tu sais. Il disait que sur les réseaux sociaux, il trouve ça difficile parce que à chaque fois qu'il dit quoi sur AEW, il se fait ramasser. Mais tu sais. Il n'y a rien contre la lutte. C'est juste qu'il ne nous explique pas c'est qui. Il explique pas aux fans, au grand public, c'est qui. Tu sais, tu passes à la télévision sur TNT, tu fais de la lutte pour le grand public. Tu n'as pas de la lutte pour le gars qui écoute New Japan, CMLL, NSPW. Non, tu fais de la lutte pour le grand public. Prends 3 minutes pour expliquer c'est qui. C'est tout. Pis si t'es pas capable de me donner 3 minutes, donne-moi 60 secondes.
Mais je t'arrête un instant, là. Matt Taven, là, on l'a vu avec Adam Cole.
Ils nous ont-tu déjà expliqué c'est qui Matt Taven à AEW?
Probablement pas.
Mais je te confirme que non.
Mais on le sait.
Les partenaires sont arrivés.
Mais on le sait qu'il est avec Adam Cole.
Mais on sait pas c'est qui. Il est dans l'événement principal contre Orange Cassidy. Ça aurait pu être un jobber, c'est la même chose. On a pas de background pour les deux.
Kevin Owens.
Puis je veux pas que les gens pensent que j'aime pas Matt Taven.
C'est juste qu'ils auraient pu nous donner.
Tu veux qu'ils pensent que t'aimes pas AEW?
Non, mais c'est l'événement principal. Donne-moi une minute ou deux. Raw, là, ils font tout le temps. SmackDown, ils le font tout le temps. Pourquoi on n'est pas capable de le faire à AEW?
Kevin Owens et Dom Mysterio. J'ai bien aimé. Bien aimé le match. Avec R-Truth aussi, l'interaction avec R-Truth. C'est toujours le fun.
Je pense que les gens comprennent pas comment Dom, c'est un. Yo, R-Truth est over, hein?
R-Truth est over.
R-Truth est bien over.
R-Truth est over. Logan Paul, c'est le premier match de Logan Paul à la télé.
Ouais.
Donc ça, j'ai bien aimé ça avec le Miz. Ouais. Ça a été un bon combat. Cody Rhodes. J'ai adoré. OK. Pas Cody, en fait. Le Rock. À SmackDown. Parce que là, il y a bien des gens qui pensent avoir vu des Easter eggs. Tu sais, des petites subtilités dans Skull Rock. Puis il y en a deux principales. Puis je suis pas en désaccord avec les gens qui ont vu ça. Là, j'avoue que moi aussi, le Rock fait pas rien pour rien.
Ouais.
Et il dit à un moment donné, Cody Rhodes, je vais m'assurer que tu quittes WrestleMania comme perdant. Et au moment qu'il dit ça, il pointe Roman Reigns qui lui regarde dans la foule au même moment et on voit un plan large de la caméra pour qu'on voit qui il pointe vraiment. Quand il dit « Je vais m'assurer que tu quittes WrestleMania comme perdant. » Et là, il pointe Roman. Et là, t'as même Paul Heyman qui fait une petite face. Fait qu'il a dit Cody Rhodes au début. Ouais. Mais quand il dit le reste de la phrase, il pointe Roman. Donc, est-ce que on s'enligne vers le Rock qui va faire perdre Roman contre Cody pour ensuite donner Rock et Roman plus tard? C'est pas impossible, ça, là. C'est pas impossible. Et l'autre affaire, évidemment, c'est quand tout le monde a mis le 1, lui, il a fait un gun. Tu sais, il a levé le pouce aussi. Donc, c'est les deux subtilités. J'ai adoré quand R-Truth a dit ça doit être comme ça que Genuine s'est senti quand il a écrit Poney.
Moi, je l'ai pas compris, celle-là.
Je ne sais pas, mais j'ai juste trouvé... Je l'ai pas compris.
OK.
Mais j'ai juste trouvé la référence très drôle.
J'ai réalisé quelque chose que...
La toune de Poney, c'est la toune de Magic Mike.
Poney, c'est l'excellent designer qui m'a fait un beau...
Ouais, mais ça, c'est la toune de Genuine qu'on entend dans Magic Mike.
Je me suis rendu compte que j'étais R-Truth à Véro les Fantastiques.
Parce t'étais que confus?
Mon personnage, c'est confus.
Tu te présentes quand t'as même pas... T'as même pas censé faire la radio.
Mais j'ai vu le beat de R-Truth, pis j'ai fait, c'est exactement ce que j'écris tout le temps quand je vais à Véro, pis j'ai fait, hostie, je suis le R-Truth de Véro, il est fantastique. Je suis le R-Truth de Rouge.
Michael Chandler qui défie Conor McGregor à Raw.
Ben, c'est la première fois qu'on voit vraiment le lien entre TKO
entre UFC puis WWE, puis en plus c'est au Anaheim, au Honda Center,
et en plus la promo était shit.
Non, mais où on a... Non, mais moi je l'ai trouvé bon, Chandler.
Ben non. Bon. Il a fait une promo de lutteur pour lutteur qui crie, là.
Mais non, moi je l'ai trouvé bon.
Okay,
puis ça se fait au Honda Center où la WWE et UFC ont déjà annoncé qu'ils étaient pour faire des événements conjoints. T'sais, un le samedi, l'autre un la veille, l'autre le lendemain. Donc, c'était la bonne place pour faire ça. On pensait que c'était même pour main eventer UFC 300. Mais là, on a annoncé un autre main event aujourd'hui. Donc, ça n'a pas l'air que ça va être le cas. Battle Royale gagné par Raquel Rodriguez. Je veux t'en parler parce qu'habituellement, je te dis souvent que j'aime pas les batailles royales, surtout tu sais, pour décider d'une place dans le Elimination Chamber. Par contre, je trouvais que c'est la meilleure façon de faire ramener Raquel et de la faire gagner.
Ouais.
Si on l'avait ramenée dans un contre un, j'aurais trouvé ça plate parce que elle a pas lutté depuis le 3 décembre, t'as fait gagner un contre un, ça a pas rapport. Mais là, une bataille royale, c'est un match plus impressionnant, t'as éliminé un paquet de monde et puis c'est pas le même type de match, c'est un match que où tu peux revenir plus facilement et j'ai aimé comment on l'a booké à son retour, donc ça, j'ai bien aimé ça. Drew contre Cody, j'ai bien aimé également.
C'était excellent, Drew puis Cody. Puis Gunther puis Jay, c'était excellent. Raw, j'ai pas beaucoup de problèmes avec Raw, à part la longueur du show.
Raw est probablement le meilleur show en ce moment.
Facile.
Tout inclus.
Facile.
On a des bons matchs, on a des bonnes histoires. Oui, c'est long, oui, c'est 3 heures. Mais mis à part ça, je pense que c'est le meilleur show qu'on a en ce moment. Tu sais, on a parlé de WWE Speed, puis de quel genre de match on aurait voulu. Dragon Lee contre Cedric Alexander a été enregistré là, pour un
prochain, pour vrai?
Cette semaine. Et ça, c'est exactement le genre de match
mais j'ai hâte de voir.
De 5 minutes et moins que tu veux montrer au monde.
Ouais, mais il manque de star power, mais ça va être bon.
Oui, je suis d'accord. Ben, oui, surtout que l'autre match, c'était Odyssey Jones contre Cameron Grimes.
Mais c'est
il manque de star power aussi. Je suis d'accord avec toi. Mike Bailey Watch Je te parle des matchs de Mike Bailey au fin de semaine de, à la fin de semaine de Mania. Premièrement, il a lutté contre Elias en fin de semaine passée. C'est le premier match sur les Indies d'Elias qui revient sur son nom d'Elijah. Et puis, c'est Bailey qui l'a eu. Mais au Josh Barnett's Bloodsport, la fin de semaine de Mania, il va affronter Nick Nemeth.
Bon.
Fait que Rob Van Dam, les Rock'n'Roll Express, puis Dolph Ziggler. C'est pas... Mike Bailey, mesdames et messieurs.
Il affronte des gens qui, leur gimmick, c'est d'être des rock stars des années 80. Mike Bailey, c'est le rock star killer.
Ouais, mais Rob Van Dam, c'était plus...
Il avait la vie d'une rock star.
Ouais, oui, c'est sûr.
Il avait le nez d'une rock star.
C'est sûr, oui.
OK, all right.
Oui. OK, t'as-tu d'autres...
Non.
Coup de cœur, avertissement.
Avertissement. Ce segment pourrait contenir des critiques négatives.
Vas-y.
J'ai pas grand-chose, pour vrai. Puis on a déjà parlé, t'as déjà parlé des EW. Le segment au micro des filles pour le l'Elimination Chamber.
Ah, mais là, on peut-tu?
Je l'ai vu venir, mais ils font ça.
Mais j'ai aimé que Nia Jax tue tout le monde. Puis il y avait pas de fin au meurtre de Nia Jax. Moi, ça me faisait rire. J'étais comme, bah, c'est fini. Oh non, c'est pas fini. Leg drop, oh, c'est fini.
Par
oh,
contre, non, non. Par contre, c'est pas logique qu'il ait pas envoyé. Écoute, des fois, là, il va avoir une altercation qui va durer 20 secondes, puis il va envoyer 8 arbitres puis 3 agents. Là, Nia Jax a fait 8 minutes dans le ring, je pense, de meurtre, puis
d'accord avec toi.
Ils ont envoyé personne. Fait que ça, j'ai pas... puis tu sais, oh, Tiffany Stratton, pauvre Tiffany.
Je l'adore,
oui,
Tiffany.
Oui, je comprends, mais elle a essayé d'aller chercher la foule avec un câble, puis ça a pas marché. Quand elle a dit à Naomi qu'elle se prenait pour... qu'elle était... comment est-ce qu'elle a dit ça? Pendant que tu te faisais un autre nom ailleurs, en voulant dire qu'elle s'appelait Trinity. Puis là, elle a eu une pause, puis elle a attendu que la foule réagisse. Puis la foule, c'était...
Y a-tu beaucoup de gens qui ont vu Naomi à Impact?
Tu sais qu'il n'y a pas de... Tu sais qu'il n'y a pas de Y dans Naomi, hein? Non, mais j'ai juste trouvé ça... C'est jamais bon quand tu cherches la réaction à ce point-là. Prends pas de pause. À moins que tu sois vraiment sûr de ta shot, là. Tu sais, le Rock peut prendre une pause, là. Mais pas toi, là. Dis-le, puis enchaîne. Au pire, si les gens réagissent, ils vont réagir. Puis là, t'en prendras une pause. Mais prends pas la pause si t'es pas sûr que la foule va réagir. T'as parlé de Matt Taven tantôt, là. Je m'étais pris une note plus loin. As-tu vu comment... On parlait de Careless Motherfucker aussi, là. As-tu vu comment il a lancé la chaise tout croche à bro. Trent Barretta?
Bro.
Honnêtement, je vais être... Man, moi, je reviens backstage, je suis en tabarnouche après toi. Mm. Sérieusement, ça se fait pas, là. Il l'a pitché vraiment comme si c'était un coussin. Ça a revirevolté en plein en face. Il a à peine eu le temps de se protéger.
Mettons Wardlow, là.
Je m'attendais pas que ça me parle de Wardlow, mais oui.
Mettons...
Ouais.
On peut passer à l'autre étape.
C'est quoi l'autre étape?
Je sais pas, mais...
Changer de carrière?
Il me semble que cette étape-là, ça fait 3 ans, là. Des squash matchs, là.
Ouais, ouais.
OK.
Non, mais on l'a échappé au Wardlow après qu'il ait gagné le titre, là. C'est là qu'on l'a échappé au Wardlow. Mm. Prédiction. Prédiction Elimination Chamber à Perth, en Australie. 5 heures du matin, samedi matin, pour ceux et celles qui veulent se lever tôt. Kev, qui va gagner le match entre Judgment Day, donc les champions par équipe Judgment Day, Priest et Baylor, et Balor, contre Pete Dunne et Tyler Bate?
Judgment Day.
Moi aussi, je pense que Judgment Day va garder...
Ils vont garder Judgment Day fort jusqu'à Mania.
Rhea Ripley contre Nia Jax?
Rhea Ripley. Ça va être le main event aussi.
Ah oui, oui. Ah, tu penses?
Mm-hmm. Nia Jax, elle vient d'Australie.
Ben oui. Nia Jax?
Hein? Oui, elle est née en Australie.
Ah,
ça se peut-tu?
Non, mais pas. Ben écoute, c'est pas tellement loin des îles Samoanes, là, mais il me semble qu'elle est née comme à San Diego.
Oui, c'est Sydney en Australie.
Nia Jax?
Ouais. Fait que c'est un événement tout australien.
C'est-tu le même site qui disait Triple H était CEO ou c'était
ben, le mon site avait raison, là.
Non, mais je sais qu'il a été CEO à un moment donné, là, en passant, là, mais. OK, mais je savais pas.
Mais c'est fou.
Elle a pas dû habiter là longtemps.
Mais je sais pas, mais elle est née là. Okay. Tu sais, c'est comme.
Mais pourquoi ils nous ont pas dit ça?
Ben, c'est ça que je trouve bizarre. Parce que c'est quand même un événement tout australien.
Ben oui.
Ah, ça arrive d'être l'événement principal. C'est quand même fou, là.
Ouais, non, ça, j'avoue que...
Puis, tu sais, Nia va peut-être se faire encourager à Perth, là.
Ben, ouais.
Parce qu'elle vient de là.
OK, ben, je savais pas. Bref, Ripley va gagner. Elimination Chamber féminin, Becky Lynch, on s'entend?
Ouais, ouais.
Elimination Chamber masculin, Drew McIntyre?
Ouais.
OK. Ouais? Non? T'as-tu des doutes ou?
Ouais, ouais.
Bon.
C'est tout?
Ben, c'est, ben oui, mais deux matchs comme ça. Toi, tu penses vraiment qu'ils vont mettre Rhea en finale?
Ben oui, 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 tu mets Rhea en finale.
Hmm.
Tu peux pas mettre Rhea en finale. Elle va avoir le plus gros pop de tout. Mais, passer Cody, passer tout le monde. Ouais. Ça va être...
ça va être la Sami Zayn de la
ben
passée.
Ben oui, ben oui. Tu peux, pas, année, en fait. Tu peux pas la mettre en l'événement principal. Puis même Naya va avoir un pop. Parce qu'elle vient de là.
Peut-être, peut-être. Mais oui, mais ça, c'est si les gens le savent. On sait pas si les gens...
Ben oui, c'est sûr que tu le sais. Tu viens de là, c'est sûr que tu le sais. Là.
Ben, je souhaite.
Non, mais ils savent que Nia Jax, ça vient de là. C'est sûr que Nia, elle a fait plein de médias, plein d'affaires. Là.
J'ai pas vu passer de médias de Nia
c'est
Jax.
C'est sûr qu'ils savent que Nia Jax est née en Australie.
Bon, mais on va le voir. On va le voir.
C'est sûr qu'ils savent.
Éphéméride.
Go back.
Éphéméride, Kev, tu vas être content de mon éphéméride.
Mm-hmm.
Parce que le 19 février, donc il y a trois jours là, au moment de vous écouter ça, 1954, il y a 70 ans, est arrivé un match qui fait en sorte qu'aujourd'hui, toi, tu suis New Japan.
OK.
C'était un match en équipe entre Riki Dozan, qui est le père de la lutte japonaise, et Masahiko Kimura, contre Mike et Ben Sharp, les champions mondiaux par équipe, qui sont deux Canadiens en passant, au Sumo Hall à Tokyo. Un match nul de 61 minutes. On a fait un draw de 61 minutes.
C'est fou, ça.
Et c'est ce match-là, c'est suite à ce match-là qu'il y a eu, que Riki Dozan est vraiment devenu un phénomène culturel au Japon. Puis c'est reconnu comme étant la vraie naissance de la lutte japonaise. Ça a commencé là, il y a 70 ans. Alors, je trouvais ça intéressant, vu que tu suis énormément New Japan pour nous ici sur le podcast. Géopardi!
Yo, ça, c'est mon affaire, ça.
Habituellement, t'es un peu plus excité même pour Géopardi.
Ben, je finis mon article, c'est pour ça.
Ah! T'es-tu excité? T'es-tu prêt surtout?
Oui, je suis concentré.
OK. Pour 100$, Kev, c'est un spécial Elimination Chamber.
Oh boy!
Pour 100$.
God!
Celui qui a introduit le match Elimination Chamber en novembre 2002, ça ne lui a pas pris 83 semaines pour nous l'expliquer.
Moi, j'avais le goût de dire Eric Bischoff.
Eric Bischoff. Premier gagnant pour 200$. Premier gagnant du Elimination Chamber qui ne faisait pas partie de la D-Generation X.
Oh.
Vous ne l'avez peut-être pas vu.
John Cena?
John Cena!
Ah oui,
j'ai Jason qui fait le signe de
John
You
Cena,
Can See Me.
Cash-in. C'est le premier cash-in de Money in the Bank.
Moi, mais là, on parle de l'Elimination Chamber, je m'en sacre de Money in the Bank.
C'était dans le Elimination Chamber, Cena avait gardé son titre. Puis après ça, Vince était sorti, puis Edge a donné la mallette. C'est la première fois qu'il y a eu le cash-in.
Pour 300$.
C'était à New Year's Revolution 2006.
Pour 300$. Le nombre de gagnants différents qui ont remporté le match Elimination Chamber chez les hommes.
Ben là.
Ils ont le nombre de gagnants différents. Donc, quelqu'un qui l'a gagné trois fois, ça compte pas. Le nombre de gagnants différents qui ont remporté ce match chez les hommes, ils ont peut-être même chanté du Taylor Swift pour célébrer.
22.
22!
Ça l'est bon,
mon indice était bon.
Mais
là,
ça aurait pu être 13 aussi, parce que c'est le chiffre préféré de Taylor.
Ah, wow, tu vois, ça, je connaissais pas cette information-là. Pour 400$, elles sont trois des six lutteuses à avoir fait partie du Elimination Chamber qui avait lieu à Montréal l'an dernier.
Elles sont trois, faut que j'en nomme trois. Natalia.
Ben, j'attends que tu me nommes les trois.
OK. Il y en a trois.
Évidemment, t'as pas trois minutes, là.
Natalia, Liv Morgan et Raquel Rodriguez.
Bonne réponse! Il y avait également Asuka, Carmella et Asuka qui avait gagné. Carmella et Nikki Cross.
Ouf!
C'est la première fois que t'as la question à 400$.
Ouais, je sais!
Pour 500$
maintenant. Attendez, là, est-ce qu'on est sur le bord d'un quelque chose d'historique, là?
Ça serait la première partie.
Ça serait la première partie parfaite de Kevin Raphaël.
Pourquoi tu me mets de la pression, man? Yo, fous-moi la paix, man!
Hey, non, mais c'est historique, là. Il faut que les gens le savent.
Contrairement à Nia Jax qui vient d'Australie, les gens savent pas. Pour 500$, Alexa Bliss, Bayley, Mandy Rose, Mickie James, Sasha Banks et Sonya Deville ont participé au tout premier Elimination Chamber féminin en 2018 dans cette ville des États-Unis.
Fait qu'il faut que je nomme la ville.
2018.
C'est le tout premier Elimination Chamber féminin.
Non, je suis vraiment désolé, Kev.
Mais non, mais c'est dommage tough comme question.
Ça vaut 500$.
Non, mais il n'y a même pas un esti d'indice.
Il y a un indice, c'est Elimination Chamber, le premier en 2018. J'étais tout nommé lutteuse. Il n'y a pas d'indice.
Mais il n'y a pas d'indice, man.
Il n'y avait pas d'indice en question à 400$ non plus.
Oui, il y avait un indice.
Lequel?
Montréal.
Là, c'est le premier Elimination Chamber. Tu devrais savoir c'était où?
Chicago.
Mauvaise réponse. C'était Las Vegas au T-Mobile Arena.
Hey man, question de marde, man.
Ben écoute, t'as quand même gagné 1000$, Kev.
Ah ouais, bravo.
Il est fâché.
Mais non, mais là, Chris.
Il est fâché. À date, t'as des gains de 3200$ jusqu'à présent. Mm. Sur une possibilité de 4500. C'est quand même bien. C'est quand même bien. Le quiz.
Il est fâché.
Ah, c'est l'heure du quiz de notre ami Jérôme Jacques Double J. Quel a été votre double turn préféré entre The Rock versus Hogan à WrestleMania 18 ou Stone Cold contre Bret à WrestleMania 13?
Stone Cold contre Bret à WrestleMania 13.
Moi, c'est Rock Hogan parce que j'étais là. Pour moi, ça, j'ai préféré celui-là. Qui aimeriez-vous voir passer d'AEW à la WWE entre... Oh. C'est pas fin, ça. Entre Ray Phoenix ou Penta El Zero?
Ben, Ray Phoenix, de loin.
Ray Phoenix, hein?
Ray Phoenix, là, c'est the one.
Et finalement, je vous donne deux montres Rushmore. Lequel choisissez-vous? Écoute bien, entre Hogan, Shawn Michaels, Ric Flair et Stone Cold, mm-hmm, ou bien Rock, Macho Man, André, Undertaker. Damn!
Répétez donc, vous.
Hogan, HBK, Ric Flair, Stone Cold.
OK.
Rock, Macho Man, André, Undertaker.
Ben, Rock, Macho Man, André, Undertaker.
Moi, je vais aller avec Hogan, Flair, Stone Cold, Shawn, parce qu'il y en a trois des quatre qui sont sur mon Rushmore. Donc, voilà, merci beaucoup. Double J pour... Il te souhaitait la bienvenue, d'ailleurs, Double J, Jason. Ben, c'est déjà tout. Oubliez pas de vous abonner sur notre Keybook. On va avoir du beau contenu. Surtout, la revue d'Elimination Chamber dès samedi matin. Très, très tôt. Oubliez pas d'aller écouter ça sans restriction. Le site web maintenant, allez consulter ça. On va avoir des articles pour vous sur différents sports à travers les prochains jours, prochaines semaines. Sans restriction de luxe également. Et puis, ben voilà. Donc, c'est tout en mon nom. Celui de Jason Cavallaro, celui de Kevin Raphaël. Je vous dis à la semaine prochaine. C'est un rendez-vous! Kim, t'es resté là jusqu'à la fin, Kev. Mm.